grandir ensemble.
Il est 11h à Paris, 9h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Dans 10 minutes, priorité santé avec Caroline Paré, mais d'abord toute l'information. Bonjour Olivier Charman.
Bonjour Juan, bonjour à toutes et à tous. L'armée israélienne a bombardé le quartier du palais présidentiel à Damas. L'État hébreu avait menacé le gouvernement syrien de représailles s'il ne protégeait pas la minorité druze. Plus de 100 personnes ont été tuées en Syrie en 2 jours. La plupart des victimes sont des combattants druzes. Elon Musk débarqué de Tesla. Selon des médias américains, le patron de l'entreprise de voitures électriques serait sur un siège éjectable. Le conseil d'administration de Tesla chercherait un nouveau responsable pour le groupe. Le Rwanda et la République démocratique du Congo présente à Washington un avant-projet d'accord de paix pour mettre fin au conflit dans l'est de la RDC. Un texte qui pourrait conclure une longue série diplomatique menée sur différents fronts. Enfin, des manifestations étudiantes importantes en Serbie à l'occasion du 1er mai. Une jeunesse en lutte contre la corruption dans le pays. Des étudiants qui ont réussi à faire défiler sous les mêmes slogans les 5 centrales syndicales serbes, ce qui n'était jamais arrivé. Israël a donc bombardé les abords du palais du président à Damas, accusé de génocide des Druzes. Des affrontements confessionnels en début de semaine ont fait plus de 100 morts en Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le plus influent chef religieux druze en Syrie accuse le nouveau pouvoir syrien de mener campagne génocidaire injustifiée visant des civils de sa communauté. La communauté druze est protégée par l'État hébreu. Ce bombardement par des avions israéliens est un message clair envoyé au régime syrien. Nous ne permettrons pas que des forces syriennes soient dépêchées au sud de Damas ou menacent de quelque manière que ce soit. La communauté druze a averti le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Les explications de Michel Paul à Jérusalem.
Une pratique régulièrement utilisée par l'armée israélienne, une frappe aérienne visant un lieu très proche de la cible qui est réellement menacée. Mais ce qui est inhabituel dans cette attaque israélienne, c'est précisément l'objectif réel, le palais présidentiel à Damas. Et dans un communiqué conjoint, le bureau du Premier ministre israélien et celui du ministre de la Défense expliquent qu'il s'agit d'un message clair au régime syrien. Nous n'autoriserons pas le déploiement de forces au sud de Damas, ni aucune menace envers la communauté druze, indique le texte. Cette action de l'aviation israélienne intervient alors qu'hier soir, des centaines de membres de la communauté druze israélienne ont manifesté. Ils ont bloqué des carrefours dans le nord du pays. Ils se sont rassemblés également face à la résidence de Benjamin Netanyahou dans la ville de Césarée pour exiger qu'il tienne ses promesses d'aide à l'égard de la communauté. Des réservistes druzes ont adressé une lettre ouverte aux dirigeants israéliens. Des centaines de combattants druzes sont prêts à se porter volontaires immédiatement pour combattre aux côtés de nos frères en Syrie, affirme-t-il. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Ce vendredi, cela fait exactement 2 mois qu'aucune aide humanitaire n'a pu entrer à Gaza. Israël bloque l'accès, pas de nourriture, pas de médicaments, pas de carburant. Ce matin, le Comité international de la Croix-Rouge tire la sonnette d'alarme à son tour. Les opérations humanitaires dans la bande de Gaza sont au bord de l'effondrement total, met en garde le CICR. Elon Musk sur la sellette dans ses fonctions de chef d'entreprise. La question se pose chez Tesla, le fabricant de voitures électriques dont les bénéfices et la valeur de l'action se sont effondrés depuis qu'il s'occupe de politique à Washington. Selon des informations de presse, le conseil d'administration de l'entreprise aurait lancé la recherche d'un nouveau patron. À Washington, on retrouve Guillaume Nodin.
Ils démentent tous avec la dernière énergie, Tesla et Elon Musk. Mais le Wall Street Journal maintient ses informations. Selon le quotidien des milieux financiers, le conseil d'administration a discrètement commencé à chercher un successeur à Elon Musk. Le même conseil lui a fait comprendre qu'il lui fallait passer plus de temps à s'occuper de l'entreprise. C'est qu'Elon Musk a passé l'essentiel des 2 derniers trimestres à s'occuper de politique en soutien à Donald Trump ou à d'autres mouvements d'extrême droite à travers le monde et à tailler dans les dépenses de l'État fédéral en tronçonnant les effectifs de la fonction publique. public. Des priorités peu appréciées par ceux qui payent, les clients, les ventes se sont effondrées un peu partout, et les actionnaires qui ont vu le bénéfice baisser de 71%. Sans compter les dégâts d'image avec des manifestations devant des concessions parfois vandalisées et des propriétaires de véhicules qui signalent avec des autocollants qu'ils ont acheté leur voiture avant le virage idéologique d'Elon Musk. Donald Trump a fait ce qu'il a pu en achetant lui-même une Tesla dans les jardins de la Maison Blanche et en assurant qu'Elon Musk pourrait travailler avec son administration autant qu'il le voudrait, tout en admettant qu'il devrait sans doute retourner à ses voitures. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
En RDC, une nouvelle étape est attendue ce vendredi à Washington. Kinshasa et Kigali doivent soumettre un avant-projet d'accord de paix. Cette étape de Washington intervient après une série d'initiatives diplomatiques menées sur différents fronts. Les explications de Patient Ligaudy.
Il y a d'abord le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost. Il a effectué une mission de 5 jours en Afrique des Grands Lacs. Il n'a pas visité Kigali, les relations entre la Belgique et le Rwanda étant actuellement rompues. Bruxelles affirme son soutien aux efforts en cours, tout en appelant à intégrer pleinement les dynamiques congolaises, notamment le dialogue national proposé par les églises. Autre déplacement cette semaine, celui de Tiffany Sadler, envoyée spéciale du Royaume-Uni pour la région. Elle dit vouloir renforcer l'appui britannique à cette dynamique avec un objectif, la stabilité et la prospérité. L'Union européenne s'est également manifestée. Son représentant spécial, Johan Borgstam, a conclu hier une visite à Kinshasa. Le diplomate insiste sur la nécessité de concrétiser les engagements annoncés en respectant les principes fixés par le Conseil de sécurité de l'ONU, dont celui de la souveraineté de la RDC. Enfin, à Doha, les représentants des 6 pays, la RDC, le Rwanda, les États-Unis, le Qatar, la France et le Togo, ont tenu une réunion de suivi. Et depuis Washington, Donald Trump, interrogé sur ces dossiers le week-end dernier, s'est voulu optimiste. Nous avons, je crois, une excellente nouvelle à venir avec le Rwanda et le Congo. Nous espérons vraiment que cela va se concrétiser. Fin de citation.
Des manifestations étudiantes en Serbie et des manifestations du 1er mai à Belgrade, un défilé particulier puisqu'organisé par les étudiants en lutte contre la corruption. Ils étaient accompagnés par les syndicats serbes. Laurent Rouy.
Pour les protestataires serbes, le 1er mai coïncidait avec un triste anniversaire. Il y a 6 mois, le haut vent de la gare de Novi Sad s'effondrait sur des passagers, tuant 16 personnes. Ce drame a plongé le pays dans une contestation inédite contre la corruption qui met à mal le régime du président Vučić. À la tête du mouvement, les étudiants, dont Luka de Belgrade.
Notre but est la construction d'un État plus juste, un État de droit où les institutions ne seront pas usurpées par un individu. Un État dans lequel les institutions seront fortes.
Les étudiants ont réussi une prouesse, faire marcher ensemble les 5 centrales syndicales serbes, ce qui n'était jamais arrivé. Dragan Milovanovic, manager de l'association des syndicats libres et indépendants, n'en oublie pas les droits des travailleurs.
Ce sont des buts communs qui nous ont rassemblés. La mise en place de l'état de droit, la modification de la loi sur le travail et de celle sur le droit de grève. Ces lois sont tellement contraignantes que les travailleurs n'ont plus aucun droit.
Dans la foule, Dejan, 45 ans, est ancien combattant des guerres de Yougoslavie. Il se dit prêt à défendre les étudiants des provocateurs.
On soutient les jeunes dans leur lutte. On voit ici qu'ils créent quelque chose de beau, de démocratique. Je suis aussi content que le peuple se soit réveillé.
Le rassemblement a été critiqué par le président serbe, pour lequel le mouvement populaire est en perte de vitesse. Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
Le monde du ballon rond en deuil en Espagne. Tu vas manquer à tous les amoureux de la sélection espagnole. C'est par ces mots que Pedro Sanchez, le président du groupe du gouvernement espagnol, a rendu hommage à Manolo El Del Bombo, le plus célèbre supporter de la Roja, connu pour son tambour et sa passion inébranlable. Il est décédé ce jeudi à 76 ans des suites de problèmes respiratoires. Une figure du football populaire espagnol dont la disparition attriste en Espagne. À Madrid, la correspondance de Pierre Chaperon.
Il ne fera plus vibrer son tambour. Manolo El Del Bombo, de son vrai nom Manuel Cáceres Artesero, est mort près de Valence. Figure incontournable de la culture populaire espagnole, il incarnait la passion du football pour Angel, 72 ans.
C'était un personnage public assez sympa, aimé de toute l'Espagne. Des supporters de la Roja comme lui, il n'y en avait pas beaucoup.
Présent sur 10 Coupes du Monde et 8 Championnats d'Europe, ce tenancier de bar à Valence avait accompagné tout de rouge vêtu tambour en bandoulière, la Roja. Doha, aux quatre coins du globe. Il n'avait pourtant pas pu faire le voyage au Qatar en 2022, faute de logement. Un personnage iconique pour Miguel, 26 ans.
On avait beaucoup d'affection pour lui. On l'aimait pour sa singularité, son soutien sans faille, sa passion du football. C'était une figure mythique, tout le monde le connaissait. Maintenant, il nous encouragera depuis là-haut.
Les hommages pleuvent dans le monde du sport espagnol. Malade depuis plusieurs années, il avait assisté en mars à son dernier match à Valence pour voir l'Espagne se qualifier en demi-finale de la Ligue des Nations face aux Pays-Bas. Le mois prochain, la Roja jouera contre la France sans son plus fervent supporter. Pierre Chaperon, Madrid, RFI.
Eh oui, le plus célèbre supporter de la Roja, qui était bien connu pour son tambour et toutes ces fêtes qu'il organisait autour des matchs de la Roja. Tout de suite, c'est Caroline Paré avec Priorité Santé. Très bonne journée à l'écoute de RFI.